Il rallie le camp de Napierville. Ou Napierville. Je connais pas ce coin-là. 3 novembre, à Châteauguay, des frères chasseurs menés par le député cardinal tentent de désarmer les Amérindiens de Kanawake. Ils sont faits prisonniers et livrés au gouvernement. Les meneurs sont pendus le mois suivant. Et ça commençait déjà à pendre. 3 et 4 novembre, rassemblement patriote à Saint-Mathias autour de Louis Bourdon en vue de s'emparer de Fort Chambly. 4 novembre, 300 patriotes se rendent au moulin Meigs de Marieville, où ils doivent trouver des armes, puis s'emparer du village de Christieville, aujourd'hui Iberville. 4 novembre, toujours en 1838, la famille Prévost de Sainte-Anne-des-Plaines, dénommée les Lions du Nord, assermente plusieurs frères chasseurs et fournit des combattants décidés au camp de Terrebonne. 4 novembre, des patriotes d'Éloi Marier et de Charles-Guillaume Bouc s'emparent de Terrebonne. Un traité de paix est signé sous le patronage du seigneur Joseph Masson, évitant ainsi une effusion de sang. 5 novembre, le camp de Napierville compte 4000 hommes, commandés par Charles Hindenlang et Robert Nelson. Ils attendent des armes des États-Unis. 6 novembre. Une centaine de frères chasseurs commandés par Cyril Côté et Lucien Gagnon affrontent des loyaux barricadés dans le blockhouse de la colle. C'est une victoire patriote, mais l'armée se lance à la poursuite de la colonne de Côté. 7 novembre, après avoir pris livraison d'un convoi d'armes, les hommes de Côté sont assaillis par les loyaux d'Odeltown et de Hemingford. Il y a plusieurs morts et les armes sont perdues. La défaite de la colle a des conséquences dramatiques pour les patriotes.
Et comme Babu a déjà travaillé à Musique Plus, on va vous faire écouter un extrait de Musique Plus à l'époque où Babu de Radio X2 travaillait. On écoute ça. Vous allez voir que le son, il est pas mal bon.
Oh,
C'est le bon extrait. Il y a deux extraits de celui-là que je vous fais entendre. Ça, c'est le fameux disque que je vous dis qui était. Il y avait une levée d'interdit sur ce disque-là au Québec. Ce disque était mis à l'index. Alors, je sais pas si c'est le bon, là, mais il y en a deux de la même chose, mais il y en a un qui coupe là, des deux. Alors, ne soyez pas surpris si vous voyez que ça coupe. Alors, on écoute la Révolution française. Alors, c'est pas celui-là. Alors, ça doit être l'autre, là, ce qu'il est, là. Hey, ça me fait penser quand j'étais à Simi, ça. C'était qui ouait un disque en onde, mesdames et messieurs. C'est extraordinaire. C'est parce que j'avais jamais entendu un animateur dire, bon, c'est parce que... Allez, je vais vous conter l'anecdote, là, ça vaut à peine. C'est parce qu'il y avait deux CD, puis il y en a un qui était scrap, je sais pas, qui avait été... Il y a eu du sabotage, il y a eu toutes sortes d'affaires, cette station de radio-là qu'on a essayé de sauver... Alors, on va y aller avec le deuxième extrait. C'est parce qu'il y en a un qui était scratch, mais c'est parce que c'est les deux mêmes photos qu'il y a sur le YouTube, là, c'est pour ça. Alors, on y va avec le deuxième extrait de La Révolution française, un disque qui a été d'interdit de diffusion au Québec dans les années 70.
Québécois, nous sommes Québécois, le Québec saura faire.
écoutez l'émission spéciale, mesdames et messieurs, sur la commémoration des Patriotes 2012, mais qui s'est passé, en fait, en 1839. Alors, j'essaie de me trouver dans mes affaires. Bon, OK. Hey, on a eu une grosse journée aujourd'hui, là. Je vais vous dire franchement, là, c'était quelque chose, mais je veux vous offrir une belle chanson de Charles Aznavour. Qui a été, c'est une chanson qui a été composée puis qui a été produite au début des années 70, si ma mémoire est bonne, peut-être 73 ou quelque chose du genre. Ça s'appelle « Au nom de la jeunesse ». Que c'est avec plaisir que nous animons ce soir cette émission. Et j'espère que ça vous a plu, ça achève. On a une bonne journée dans le corps, hier puis aujourd'hui. Et c'est le fun, c'est intéressant. Alors, on va retourner en musique. On prend un petit break. On vous revient dans à peu près 10 minutes. Et ça va être la suite du 15 février 1839. Qu'est-ce qui se passait au Québec? C'est ça qui est plaisant, puis c'est ça qui est le fun, dans le fond. Parce que ça nous fait découvrir le Québec. que nous méconnaissons tellement trop, que tellement trop de gens méconnaissent.
Défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux. Sauvages feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares criant de joie dans la chevauchée? Sur un cheval blanc, je t'emmènerai.
Heureux.
OK, excusez-nous, on a coupé ça un petit peu, là. Alors, vous écoutez l'émission spéciale sur la commémoration des Patriotes de 1839. Alors, on était rendu en 1838, le 7 novembre. 400 Patriotes repoussent des loyaux au camp Baker à Saint-Martin. On dit pas Sainte-Martine plutôt, mais en tout cas, c'est marqué Saint-Martin dans le texte. Puis ils rejoignent le camp de Napierville. Le 8 novembre, le juge de paix, Hertel de Rouville, se fait dérober un canon sous son nez par des frères chasseurs de Belleuil. C'est Belleuil, vous savez, c'est la fameuse montagne, là, tu sais, un petit peu avant d'arriver à Montréal, l'espèce de montagne là, qui ressemble au film, là, tu sais, au film de l'extraterrestre, là. La rencontre du troisième type avec Steven Spielberg. Là.
Ouais.
Ça, cette montagne-là, quand vous regardez ça, ça ressemble. Là, est fait, il est ouvert le micro.
Oui, il bruite, il noise ce micro-là.
Il doit être accroché après l'ordinateur.
Non, OK. Baisse, je sais pas, les hautes.
OK, les hautes.
Ah, c'est là que ça doit...
Non.
OK, bon.
Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un moteur qui vire. Ou...
Oui, ça, il doit passer proche de l'ordi.
Oui, peut-être. Là,
l'électromagnétisme, hein?
Ben oui, c'est la vie. Alors, mes chers auditeurs, on était rendu maintenant au 9 novembre. Alors, dans un ultime effort pour rejoindre les États-Unis. Alors, 700 frères chasseurs affrontent des volontaires réfugiés dans l'église d'Odoltown à la colle. Alors, à court de munitions, ils doivent battre en retraite, laissant une dizaine de morts et entraînant l'évacuation du grand camp de Napierville. Le 10 novembre, Édouard Élisée Talentin, Maillot, regroupe 10 000 patriotes à Montarville qui s'emparent du manoir du seigneur Bruno et projette de prendre Sorel ou Chambly. La dispersion du camp le lendemain marque la fin de la rébellion patriote. Comme alors, pour des centaines d'entre eux, la fuite, l'exil, la prison et parfois la mort. 16 novembre. Charles Drolet organise la spectaculaire évasion de 5 patriotes emprisonnés à la citadelle de Québec et qui réussissent à gagner les États-Unis en passant par la Beauce. Le 18 novembre, complot de 16 beaucerons autour de J.O. Caius Arcan qui aide des patriotes à passer la frontière par le chemin Kennebec au nez de la police locale. Le 21 décembre, pendaison à Montréal de Joseph Narcisse Cardinal et de Joseph Duquet. On vous revient avec la suite de l'histoire des Patriotes qui va se terminer en 1839, mais qui n'est jamais terminée, en fait. Parce que des Patriotes, des gens qui sont des érudits, qui comprennent l'histoire, qui savent ce qui s'est passé, ne peuvent pas accepter, même aujourd'hui, ce qui se passe présentement. Où, à part la violence et les armes, la guerre psychologique se poursuit tout le temps, et on n'a toujours pas de constitution encore de signer au Canada. Alors, vous écoutez, mesdames et messieurs, l'émission spéciale. On va retourner en musique. Pourquoi qu'on n'écouterait pas les petits matins de Sylvain Lelièvre que j'ai déjà été voir à Limoilou? Tu sais, au coin de la 10e rue, il y a une petite cour là en arrière, là, puis ça prenait de la bière. Là, pour... Bon, il a déjà été dans la petite cour. Toi, y a-tu déjà été?
La 10e rue, tu parles de...
Il y a une cour avec des poteaux en arrière. Là.
Il y a plein de cours avec des poteaux en arrière, cette 10e rue.
Oui, mais il y a une cour que Sylvain, quand il faisait ses shows, pas loin de la 3e avenue, sur la 10e rue, dans ce coin-là. On était rassemblés. Il y a une espèce de cour, puis il y avait une scène.
Il y a Pierrot, c'est la 10e rue. C'est
ouais.
Proche de Pierrot.
Oui, en tout cas, c'est quelque chose dans une cour en arrière, dans Limoilou.
C'était privé, là, c'était...
Ben, c'est-à-dire, je me demande si c'est pas de la ville ou, comme on dit, ça appartient à tout le monde, là, les rues par en arrière. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Il y a un nom pour ça. Il y a
les ruelles.
Alors, c'était dans une ruelle. Dans une ruelle de Limoilou, j'avais vu un spectacle de Sylvain.
Sylvain Lelièvre.
Avant qu'il soit jazzé. Parce que moi, du jazz, j'aime ça, mais je raffole pas du jazz, ben. Fait qu'on va écouter Sylvain, petit matin, que vous entendiez sur toutes les stations de radio de Québec à l'époque, le matin. Vers 6h05, après le bulletin de nouvelles, là.
Et maintenant, vous l'entendez sur Radio Fiat Lux.
Quand vous entendiez le gars à radio dire... Parce qu'à Radio Mutuelle, à CJRP, là, les nouvelles venaient de Montréal, réseau. Alors, le Q, c'était... Quand on t'entendait le Q, le jingle partait après. Puis le Q, c'était... Ici, Georges Fernand Poirier, Radio Mutuelle, information. Ça, c'est le gars de Montréal, exemple, qui donnait ce Q-là. Là, automatiquement, il y a un jingle qui partait.
Le gars de
là,
Montréal, c'est...
Puis là, après
il
ça...
Il son nom. Il disait pas Georges Fernand Poirier.
Ouais, c'était son nom. Je sais pas. Ça peut être Pierre Marion. Ça pouvait être... qui que ce soit qui était le lecteur de nouvelles, journaliste à la radio.
Il partait le jingle.
Alors il disait, ici Pierre Marion, Radio Mutuelle, information. Là, ça finissait comme ça tout le temps. Là, ça, le jingle, c'est JRP, présent par...
Puis là, tu rembarquais en régional.
Là, après ça, ça embarquait en régional avec la toune. Exemple, cette toune-là qui était souvent loguée à cette heure-là, tout de suite après le bulletin de nouvelles. Petit matin, avec... on l'a tué, oui. Avec Sylvain Lelièvre. C'était souvent cette toune-là qui partait à 6h le matin. À 6h05 le matin, cette toune-là. Là, pour réveiller le monde tranquillement. Les petits oiseaux qui chantent.
Bon matin, Québec.
À CJRP.
Petit matin sans horizon. Petit café, fumée d'usine. Je regarde derrière des maisons. Les femmes sont à leur cuisine. Il y a des oiseaux qui se font la cour sur les fils du bel téléphone. Et dans l'œil crevé de ma cour, un 747 qui résonne. Il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut un chêne. Sur la vitre je trace un que la buée retient à peine. Le transistor hurle à la mort. Les arabes font prendre un merle. Les enfants s'amusent dehors. Dans la sloche, un collier de perles. Au hasard, j'ouvre le journal. Crime passionnel. Ça va de plus en plus mal pour les mangeurs de pommes de terre. Paraît aussi le président s'amuse à jouer à la roulette entre deux annonces à la page 100 avec ce qui reste de la planète. Moi je m'en viens à mon piano. J'aurais voulu dire autre chose. Faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses. Avant de rechanter les roses. Oui, nous irons à Old Orchard cet été où l'air salin vient le semer.
Québécois, un homme sommeille qui prétend qu'il veille sans lever le doigt. Moi je prétends qu'il dort. Faut que je le réveille, faut que je me réveille avant de m'endormir.
Faut que je le réveille avant de m'endormir.
Il se demande pourquoi. Du moment que ça paye, suivrai la corneille quand elle sort du bois. Moi je dis qu'il attend. Faut que je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir. Surveille, voir si j'appareille, c'est un Iroquois. Il prétend qu'il dort, moi je prétends qu'il veille. Il faut que je me réveille avant de l'endormir.
Faut que je me réveille avant de l'endormir.
Encore une fois, que je m'émerveille à voir ton oreille endurer ma voix. J'ai du vent du nord à mettre en bouteille, du vent qui réveille avant d'endormir. Sommeil qui prétend qu'il veille sans lever le doigt. Moi je prétends qu'il dort. Faut que je le réveille, faut que je le réveille avant de m'endormir.
Faut que je le réveille avant de m'endormir.
1939. 18 janvier. Pendaison de Pierre Théophile de Coigne, François-Xavier Hamelin, Joseph-Jacques Robert, Ambroise Sanguinet et Charles Sanguinet. 15 février. Pendaison d'Amable Daunay, Marie-Thomas de Lorimier, Charles Indelang, Pierre-Rémy Narbonne et François-Nicolas. 9 septembre, un navire quitte Montréal avec à son bord 58 patriotes à destination de l'Australie. Et d'ailleurs, en Australie, il y a une ville qui s'appelle Canada City, où il y a encore des descendants des patriotes qui vivent là. C'est comme ça que s'achève l'épisode de la révolution des patriotes au 19e siècle. Puis après ça, ben, l'histoire, on la connaît. On la connaît-tu? On la connaît pas tant que ça, dans le fond. Ça serait bon de l'étudier un peu, cette histoire-là.
OK. Oh. Ah, je te distrais, oui, OK. C'est vrai qu'on la connaît pas tant que ça. Puis, mais on fait... mais je pense que c'est un... Tu penses-tu, selon toi, que c'est voulu, l'ostracisation? Que l'on ostracise notre histoire?
Ostracise.
Oh, que l'on ostracise, merci de me le rappeler. Que l'on ostracise notre histoire. Est-ce que tu penses que c'est voulu par rapport à des intérêts économiques et autres?
C'est complexe. C'est sûr que...
C'est des hypothèses.
C'est sûr que l'esprit national au Québec, c'est pas quelque chose de rentable. Pour...
C'est pas que c'est pas... Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois pas nécessairement que c'est quelque chose de... C'est que c'est voulu ainsi. C'est voulu qu'au niveau de la pédagogie, on s'arbre dans la connaissance de l'histoire, dans ce que, puis que les jeunes avaient, c'est que il y a aussi le fait que pour un jeune jouer sur Xbox pendant 3 heures, regarde, pendant ce temps-là, si mettons que tu fais du sport là-dessus, regarde, tu passes une journée, il y en a qui peuvent passer 4 heures sur un Xbox là, qui bon, ça fait juste travailler les neurones, puis à part de ça fait quoi?
Il y a beaucoup de temps. Moi, j'ai travaillé dans un service d'inventaire à Québec, puis les jeunes qui faisaient des jeux vidéo, ils étaient très bons sur la télécommande, parce que tu as une machine, là, tu rentres tes affaires, eux autres, les opérants, tabarnouche,
ils étaient habitués avec les télécommandes.
Ils sont vite, c'est Python. Bon, c'est une force comme une autre.
Oui.
Mais le problème que tu soulignes là, le problème de la consommation, puis de l'espèce de... Les gens sont divisés, sont chacun dans leur petit univers personnel.
Mais ce qui n'était pas le cas dans les années 70.
Ils se divertissent à tour de bras.
C'est ça.
Mais il y a eu la télévision, il y a eu...
Il y a Internet qui est arrivé.
Internet, là, c'est rendu que chacun est dans sa bulle. Tu sais, les gens sont pas assis à une table en train de
boire
une
bière,
puis de fumer une clope, puis de discuter.
Donc les gens sont devenus plus individualistes.
Discuter de c'est quoi la vie, tu sais, ils sont en train de se divertir. C'est quand même ça.
Alcool, sexe, jeu, drogue, dans le fond.
Ça, c'est un problème. C'est un problème, entre guillemets. C'est une réalité qui est globale. C'est comme ça à Star. C'est comme ça en Russie. C'est comme ça en France.
Ouais, c'est
comme
vrai.
En Belgique, en Allemagne.
On n'est pas encore.
Québec, c'est comme ça en Ontario. C'est comme ça.
Mais selon toi, est-ce qu'on arrive à l'apogée de la.
Moi, je pense qu'on est dans.
Est-ce qu'on arrive là à.
Je pense que l'apogée est déjà passée. On est
pas l'apogée, mais c'est pas. Est-ce qu'on est rendu vraiment, est-ce qu'on arrive vers qu'à un moment donné, la fin, là, ça va finir par arriver aussi. C'est que s'il n'y a pas de respect, parce que si on regarde...
Moi, je pense pas qu'il y ait de...
Mais tu veux-tu me laisser parler, puis tu vas comprendre.
Ouais. Bon. Mais tu me poses la question.
Si on regarde les recherches qui sont faites par les Japonais, entre autres, l'intelligence artificielle qui... On change complètement de sujet, on n'est pas des patriotes du tout, mais l'intelligence artificielle qui est avancée beaucoup, et ils font des expériences, ils font des tests. Alors, souvent, l'être humain a toujours reporté. Moi, je me souviens que j'avais lu le livre Le choc du futur d'Alvin Toffler, mm-hmm. Une espèce de grosse brique, peut-être que vous avez eu l'occasion de la lire. C'est à ce moment-là, il y avait toutes sortes de théories qui c'est la société, les loisirs, puis... Ouais, ça s'est avéré totalement le contraire de tout ce qu'on peut penser.
Exactement.
Mais sauf que, je trouve que, puis on en parle de plus en plus, même dans les médias. On en a parlé à Radio-Canada cette semaine, on parlait de la cyberdépendance. Puis il y a des recherches qui se font. Il y a des gens qui peuvent passer 60, 70 heures par jour là-dessus. Ils font pas juste écrire.
Ça
fait pas 70 heures par jour.
70 heures par jour.
Par semaine.
C'est élevé, ça, 70 heures par jour.
Non, je me suis trompé, là. C'est faisant une joke, là, en même temps, mais c'était distrait. Mais il passait ces 60 heures. On parle de semaine, là. Je me suis trompé. C'est par semaine. 60 heures par semaine, là. Pas par jour. Mm-hmm. Par semaine. Beaucoup d'heures sur l'informatique. Est-ce que dans ces heures-là, il faut se questionner? Si c'est pour étudier puis pour avancer. Il y a quelqu'un qui parlait des hackers, justement, il n'y a pas longtemps. J'écoutais ça. Il disait, où c'est quoi un hacker? On va vous le dire. Moi, c'est quoi un hacker? Le gars, il disait ça de même.
C'est quoi un hacker?
Un hacker, là, c'est un gars que s'il décide de faire du bien, il fait des grandes choses. Puis s'il décide de faire du mal, bien, il peut faire beaucoup de mal. Puis on vit dans une société où il y a une loi du retour. Fait que tu fasses du bien ou du mal, si tu fais du mal, ça va te revenir. Ça revient comme un boomerang. Puis moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans, j'ai fabriqué...
Je pense que c'est la société qui fait ça. Hein?
Quand j'avais 12 ans, j'ai fabriqué moi-même un boomerang. Je sais pas si tu sais qu'est-ce que c'est. Ouais. Puis avec un livre de bricolage, puis c'est compliqué, des mathématiques, faut que ça soit calculé, les petites lattes de bois pour ton boomerang, lui, quand tu l'envoies, là, il revient. Puis, tu sais, c'est autrement dit, quand tu fais quelque chose de méchant, de bien ou de méchant, ça te revient. Puis moi, j'avais, je sais pas quelle idée qui m'était passée par la tête, puis j'ai dit, va construire un boomerang. Puis les Allemands, eux autres, ils se servaient de ça, ils mettaient des lames au bout. C'était une arme de guerre aussi, un boomerang.
Mais ça reste...
Puis là, quand ils tiraient ça, ça revenait... Le boomerang, quand tu le tires, quand tu n'avais un vrai bien fabriqué, là, quand tu le tires, le boomerang, lui, il fait comme le... Il fait le retour mathématique d'un 8. Il s'en va comme ça. Mettons, tu le tires comme ça, il va faire un 8. Là, il revient. Mais toi, tu le vois pas, puis ça s'en vient comme ça. Puis quand ça arrive, quand ça arrivait, les Allemands, ils se servaient de ça pour tuer du monde. Puis je veux dire, ou assommer du monde. Tu pouvais assommer puis tuer avec ça. C'était une arme aussi, puis c'était un jeu. Si tu mets rien dessus, puis tu joues pour le fun.
C'est moins.
Et là, il faut que tu aies des bons yeux, parce que quand il revient, le boomerang, il faut que tu te tiens quand ça s'en vient, là. Puis il vante, là. Ça tourne comme ça, puis
Mais ça reste une croyance personnelle, là. Tu fais le mal, puis ça te revient.
Ouais, mais c'est ça.
Il n'y a pas de preuve de ça.
C'est la loi du karma. C'est la loi du karma.
Ça reste mythologique.
C'est un peu ça qui se passe. On regarde des fois les affaires qui arrivent, des fois. Et puis, selon des expériences de vie que chacun...
Moi, je regarde ça, puis ça fait plusieurs centaines d'années qu'on en mange de la merde au Québec.
Nous éthérique, pas mal.
Notre retour.
La loi du retour. C'est la loi du retour. Alors, pour terminer, nous autres, on a terminé la belle histoire de la maison, de l'histoire des Patriotes. Puis la maison des Patriotes, ben, on était contents d'être avec vous autres. On va continuer à vous faire écouter de la musique. On va écouter une petite entrevue que j'ai réalisée avec le président de la Maison des Patriotes du Québec, M. Paul Biron, un homme très occupé.
Très respectable, Paul.
Alors, on écoute ça ensemble. Je l'ai su, là?
Il est patient, Paul.
OK.
3, 2, 1, 0. Je suis en compagnie de
montage.
M. Paul Biron, qui est ingénieur, qui est président de la Maison des Patriotes du Québec. C'est un OSBL qui existe depuis déjà 16 ans, ça passe vite. Bon.
Il appela un de ses... aperçus quand nous étions en promenade. Tu t'es sauvé la vie trois fois, sauve-la-moi donc une fois, une fois.
J'espère que vous vous amusez bien. La fête nationale, notre fête à nous autres, la fête des Québécois. Mais par contre, on n'est pas des anglophobes, fait qu'on va écouter une bonne petite toune des Beatles. J'espère que vous vous amusez bien. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. .tk.
Thank you.
Vous êtes dans GFP en direct, spéciale édition. Spéciale édition de la fête nationale des Québécois. Et c'est Georges Fernand Poirier qui vous accompagne toute la soirée sur Radio Fiat Lux, en balado, en direct de temps en temps. Et je vous accompagne avec un beau soleil et avec l'humidité qui a augmenté pas mal. Watch out, apportez-vous de l'eau. Et bonne Saint-Jean-Baptiste.
Est-ce que je sais pas si tu m'attends quand je fais je vais penser un jour, j'aurai tant besoin d'une épaule pour m'appuyer, pour m'apaiser, pour mon amour, prends ma vie pour une nuit. Si jamais t'as besoin de moi, tu pourras fermer les yeux. Je te comprendrai, puis je t'amènerai loin dans une tour au fond de moi.
Des cours de chant que je prenais chez les sœurs, ben ça a donné ça. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, il fait beau, profitez-en. Emmenez votre bouteille d'eau ou prenez une bonne bière frette. C'est la Saint-Jean, c'est notre fête.
Des amis. croisé ce matin sur la rue. Ça devait bien faire au moins 10 ans. Si tu as fait mine de ne pas m'avoir vu, tu t'es trahi en te retournant. Comme dans une chanson de Joe Dassin, on a souri en baissant les yeux. Puis chacun a repris son chemin, comme si c'était un dernier adieu. Je t'envoie des becs chaque fois que je repasse à Québec, en espérant qu'un petit coup de vent te les apporte pour rappeler le temps où on se voyait comme des amants dans les cafés de la rue Saint-Jean. Même si déjà on savait bien que notre histoire ne rimait à rien. À tout hasard, je t'envoie des becs chaque fois que je repasse à Québec, en espérant qu'un petit coup de vent te les apporte pour rappeler le temps où on se voyait comme des amants dans les cafés de la rue Saint-Jean. Même si déjà on savait bien que notre histoire.
Qui appartiennent à des locaux. Donc, c'est souvent des compagnies comme Bebel et compagnie, des grosses compagnies qui ont de l'argent et puis qui, justement, qui ils vont vous offrir un contenu, oui, mais il va venir de Montréal. Il n'y aura pas rien de local, il n'y aura rien de direct, de l'interaction, ce qu'on voyait autrefois, l'interaction avec l'auditeur. Prenez juste l'exemple du temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, là, c'était-tu le fun d'écouter la radio? Il y avait plein de monde qui appelait. Il y en a qui étaient à moitié chaud, mais ça fait rien. Ils faisaient les vœux. Ben, joyeux Noël à toute la gang de, bon, la famille. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Il y a comme une déconnexion entre l'auditeur et eux. Alors, ce qui fait que, ils ont comme le nez en l'air. Ils ont tout le nez en l'air, puis le petit doigt en l'air, là. Avec les salaires faramineux qu'ils ont. Tu sais, pour intimider puis faire chier le monde aussi. Tu sais, en plus, ce matin, quand je zappais, j'écoutais ça. Quand tu entends des propos semblables de radio de droite, des propos que j'ai entendus ce matin, j'ai analysé comme il faut là, les deux langues brunes de ce matin. Faut-tu être des champs génies, pas à peu près, pour comparer les médias, les journalistes, dont plusieurs sont des professionnels en passant, là. C'est pas des petits clowns comme eux autres, là. Et on les compare à des gourous. Cibole. Ils font de la... comme on dit en psychologie, ils font de la projection, puis c'est pas à peu près. C'est vrai, vous avez le choix de les écouter puis de pas les écouter, comme moi. Mais moi, je vous dis qu'est-ce qu'il y en est. Puis je dénonce, il faut dénoncer cette droite ridicule-là qui est des endormeurs de peuple qui vous vaporisent de la cochonnerie puis de la musique anglaise la fin de semaine, du matin jusqu'au soir. Puis quand c'est rendu que le réseau énergie est obligé de payer, pas énergie, mais la disque est obligé de payer énergie pour avoir des spots au Pierre-Lapointe dans des capsules, nous dit oui, il parle de la musique du Québec, puis il nous fait découvrir des nouvelles tunes du Québec, ce que eux sont pas capables de faire. C'est pas rien, là, quand vous pensez à ça, là. Tu sais, on voit que c'est éditorialiste un petit peu, puis ça va dans le sens des propriétaires canadiens-anglais, là. Qui est Bell, c'est canadien-anglais. C'est une compagnie de Toronto, une compagnie de l'Ontario, puis qui a acheté des postes de radio partout, puis qui vaporise n'importe quoi, y compris nous autres, là, on est entouré de 300 millions d'anglais, mais, tu sais, pour nous étouffer, nous envoyer de l'anglais. Puis t'as des doubles mentons qui sont dans des radios plus indépendantes qui font la même chose parce que probablement ils ont une petite enveloppe brune à quelque part puis qui sont payés pour le faire. Ça, c'est indéniable. Vous êtes à l'antenne de RadioFiatLux.tk, la radio indépendante. Je persiste et je signe. Mon nom est Georges Fernand Poirier et je vous accompagne durant 2 jours pour la fête nationale des Québécois. Faut être fier d'être Québécois. Moi, j'ai mis mon drapeau dans ma fenêtre. Sortez vos drapeaux. Puis moi, mon drapeau, là, il va rester là, même à la fête du Canada. Je laisse mon drapeau du Québec là, moi, même à la fête du Canada. Il n'est pas question que je l'enlève. Mon drapeau du Québec. quelques instants, on aura un petit extrait sonore sur l'historique de la Maison des Patriotes. Quelques instants, un extrait sonore sur l'historique de la Maison des Patriotes du Québec. Du Capitaine No, succès radio numéro 1, 1975 à la radio. On écoute l'extrait de la, sur l'historique de la Maison des Patriotes du Québec.
Bien le bonjour tout le monde, ici Georges-Fernand Poirier pour la chronique hebdomadaire de GFP sur la web radio en ce jour... En cette journée nationale des patriotes québécois, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Ben, je vais vous parler des patriotes. Avant de vous lire un texte de Gilles Laporte dans le journal Le Devoir, que vous pouvez consulter également, journal Fleur-de-Lysée, qui est publié par la Société nationale des Québécois ou le Mouvement national des Québécois. Alors, avant de passer au texte de Gilles Laporte, j'aimerais vous parler, vous raconter un petit peu l'histoire, comment ça a commencé la Maison des Patriotes du Québec à Québec. Pour commencer, j'ai tenté d'abréger, puis de vous raconter de façon abrégée, puis de vous brosser un tableau de ce qui s'est passé, parce que il s'est passé beaucoup de choses. On a assisté à beaucoup d'événements. Tout d'abord, je vous dirais que ça a commencé qu'à un moment donné, j'écoutais la radio. J'écoutais André Arthur, qui vient de nous quitter là sur les ondes récemment. Puis moi, puis André Arthur, ben moi, je l'ai connu, André Arthur, à l'époque où il était à CHRC. Moi, je travaillais la nuit, et c'était un grand maigre. Moi, dans ma tête, à moi, je me disais, bon, le pinch qui est arrivé. Dans ma tête, je l'appelais le pinch. Mais il a tout un caractère, puis on a croisé le fer un petit peu, mais la radio, c'est pas si simple qu'on croit. Faire de la radio, c'est pas si simple qu'on pourrait croire. Et on s'en rend compte souvent quand ça fait plusieurs années qu'on baigne un petit peu là-dedans. Alors, ça a commencé qu'il y avait une guerre de drapeaux à l'Hôtel de Ville de Québec. Souvenez-vous, la fameuse guerre de drapeaux avec un dénommé Pierre Roy, qui est un ultra-fédéraliste, qui était présent sur les ondes... C'est une guerre, on a vécu ni plus ni moins, je vous dirais, la guerre des ondes. Et ça a commencé comme ça, là j'ai contacté Biron, puis Paul Biron, c'est un ingénieur, le frère de Rodrigue, qui fut ministre de l'Industrie et du Commerce au gouvernement du Québec, sous l'égide du Parti québécois. Alors ça a commencé comme ça, et là j'ai rencontré Paul Biron, puis là on se rendait compte que sur les ondes de la radio de Québec, il y avait beaucoup de propagande fédéraliste, entre autres sur CHRC, avec un dénommé Jean Cazot. Jean Cazot qui est retourné à Ottawa, mais qui a été briseur de grève à CJRP pendant 2 ans. Alors ça a commencé comme ça, puis il arrivait d'Ottawa, puis il faisait de la propagande fédéraliste avec Guy Bertrand, qui maintenant est revenu dans nos rangs. Merci. Salutations à Guy. Mais à l'époque, Maître Guy Bertrand avait des idées différentes. Ce qui fait qu'on a parti une campagne de boycottage, de boycottons CHRC et ses commanditaires, des tracts qu'on s'est promené dans les stations de radio un peu partout à travers la région de Québec, chez FM. Puis là, ça a continué comme ça, d'une manifestation à l'autre. Puis des activités. Après ça, je me souviens qu'en 2000, j'ai organisé la Fête nationale des Québécois au domaine de Maizeray. Après avoir eu un petit héritage, j'ai dit bon, ben, ça m'a coûté 3 000$ pour faire organiser la Fête nationale des Québécois au domaine de Maizeray. Et j'avais demandé une subvention, je me souviendrai toujours. On avait demandé une subvention à l'époque à l'organisation en question. Là, finalement, parce qu'il y avait une erreur, en tout cas c'est de la paperasse, vous savez ce que c'est que la paperasse gouvernementale, la subvention était refusée. Donc c'est moi qui ai payé, on vendait des hot-dogs, la musique, etc. Par la suite, au fil du temps, des activités qu'on organisait, ben, ça a été la distribution de milliers de drapeaux du Québec et des Patriotes. Après ça, ce que nous avons fait, on a participé à des émissions de radio. J'ai participé, moi puis Biron, à la radio pour justement faire connaître l'histoire du Québec aux Québécois, car la Maison des Patriotes, c'est un peu le but de faire connaître notre histoire. Alors, au départ, c'était, comme je vous disais tantôt, c'était l'histoire du drapeau avec Biron, Arthur puis Pierre Roy, le célèbre colonisé fédéralo qui a sévi pendant des années sur toutes les tribunes radio du Québec. Remarquez bien que moi, je faisais le contraire, mais au niveau québécois, pour faire connaître notre histoire à nous autres. Alors, après avoir rencontré Paul Biron, nous avons fondé l'OSBL MPQ, Maison des Patriotes, qui existe toujours. On va préparer d'ailleurs bientôt une campagne de financement. Alors, ce que nous avons fait depuis des années en ce qui nous concerne, et contrairement à d'autres, nos babines, nous autres, y ont suivi nos bottines. Comprenez-vous? Les babines qui suivent les bottines. Ça veut dire, quand tu dis de quoi, la part des politiciens, vous savez comment c'est. Alors, on se retrouve maintenant, dans les années 98 jusqu'à aujourd'hui, combat idéologique, guerre des ondes, distribution de drapeaux québécois et patriotes, lutte contre la démagogie fédéraliste qui, avec la convergence, envahissait et envahit toujours aujourd'hui les ondes des radios du Québec. Votre humble serviteur ici faisait la même chose pour la défense de notre histoire et celle du Québec, évidemment. La question ne se pose plus. Les fédéralistes, avaient des bons stratèges, imaginez-vous. Et quand je dis stratège, il y avait des sous, il y avait du cash. Scandale des commandites, corruption, propagande, puis même certains animateurs de radio de droite, propagande haineuse, que nous autres, on se battait contre la propagande haineuse, ce qui sévissait sur les ondes. Alors, on a fait ça dans tous les médias du Québec, journaux, radio, télévision. Alors moi, je vous ai brossé un petit tableau de ce qu'on a fait, puis on continue avec des moyens, pas des gros moyens, mais on tente quand même de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Alors je fais une petite pause, puis je vous reviens avec le texte de Gilles Laporte, le président du Mouvement national des Québécois. Alors, ça s'intitule « Le patriotisme à l'ère libérale ». Le résultat de l'élection générale du 7 avril dernier en a surpris plus d'un. Il faut notamment prendre acte de tous les grands partis. Le Parti libéral, élu par une pluralité de Québécois, est celui qui a pris le moins d'engagement en matière de langue, de culture et d'histoire nationale. Pour plusieurs, il ne faut pas y voir un renoncement pur et simple à notre identité. Dès lors, voit se noyer dans le multiculturalisme canadien. Nous adhérons largement à cette lecture. Pourtant, les Québécois pêcheraient-ils par excès de confiance? Ont-ils bien pris acte de la prépondérance de l'anglais à Montréal, de la détérioration de l'enseignement de notre histoire et notre langue dans les écoles, ainsi que des défis inédits que pose l'intégration des immigrants? Bonne question. Les Québécois risquent donc de se trouver devant une impasse en fermant résolument la porte à la souveraineté tout en risquant de ne pas retrouver leur juste place dans le Canada actuel. Depuis 3 siècles, la survie du Québec français a d'abord dépendu de citoyens dévoués qui, dans les couvents, les journaux et jusque dans les modestes écoles de rang, ont travaillé d'arrache-pied à transmettre notre histoire glorieuse, notre langue française et les usages de nos pères de génération en génération. Convenons que ces humbles porteurs de l'identité n'ont guère été remplacés. Aujourd'hui, ni l'école, ni l'Église, ni les médias, ni les politiciens ne souhaitent assumer cette indispensable vigilance afin d'inculquer les valeurs nationales. Bien au contraire, l'idée même de patrie ou de nation est devenue suspecte et seules les sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste semblent encore mener la mission impérieuse consistant à transmettre un héritage culturel. Notre peuple est à la croisée des chemins et court le risque au moment de rejeter l'idée même d'un référendum ou de la souveraineté du Québec, d'en même temps mettre en péril les fondamentaux de son existence comme société distincte en Amérique du Nord. Or, qu'on ne se fasse pas d'illusions, sans une mobilisation concertée et la pleine réhabilitation d'une voix nationaliste dans nos institutions, nos écoles et nos médias, il ne fait pas de doute qu'en cette ère des communications, nos caractéristiques comme peuple risquent très rapidement de s'éroder et de disparaître. Le nouveau gouvernement élu doit en être conscient et pour l'y aider, nous devons d'urgence sortir la fierté nationale des ornières de la partisanerie politique. Le patriotisme n'est pas en soi péquiste. L'identité n'est pas une question référendaire et le salut de la patrie ne dépend pas seulement de l'option souverainiste. Nos pères et nos mères se sont sacrifiés pour nous léguer une langue et une culture. Ce combat, ils l'ont joué dans l'Empire britannique puis au sein du Canada tel que nous le connaissons. Nous n'avons tout simplement pas le droit de troquer cet héritage sur le succès et le nom de l'option souverainiste. Entre renoncement et indépendantisme, il est donc urgent de légitimer une posture consistant à mener le combat national sans qu'il soit impérativement associé à une option politique. Je parle ici d'un authentique patriotisme dans son sens étymologique, consistant d'abord à servir la patrie. Un patriote aime son peuple tel qu'il est et non pas tel qu'il le voudrait. Et souhaite sincèrement qu'il prospère et puisse exprimer ses traits culturels. Le patriote sous l'ère libérale est donc d'abord honnête et sincèrement attaché au bien commun. Il n'est plus le temps de conforter son patriotisme par un choix idéologique penchant vers un parti politique ou un autre. Pour les 4 prochaines années, l'impérium libéral régnera sur le Québec. Il est nécessaire d'engager un dialogue constructif avec l'équipe au pouvoir et de faire l'inventaire de ce qui peut et doit être défendu. Toute autre position, y compris celle consistant à nourrir l'amertume envers son propre peuple ou de faire obstruction en attendant une hypothétique revanche, n'a rien de patriotique. À l'aune des défis urgents que doit relever la cause nationale, une telle attitude revient même à une forme de trahison. C'est signé Gilles Laporte, président du Mouvement national des Québécois. C'est Georges-Fernand Poirier qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique GFP, disponible sur Mixcloud, disponible également sur le site Facebook de Radio Fiat Lux.
Disponible également en balado-diffusion sur le site Radio Fiat Lux. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions qui ont été diffusées. Alors, vous allez sur le site Radio Fiat Lux. et vous cliquez sur balado. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez pas eu le temps d'écouter l'émission. C'est parfait. On est bien équipé pour ça.
En passant, ceux qui voudraient donner un coup de pouce à la Maison des Patriotes, soit par un don ou autre, on démarre une campagne de financement bientôt. Vous m'écrivez à Maison MM, Maison des Patriotes avec un S, du Québec incorporé, @ymail.com, je répète, 2M au départ, MM, Maison des Patriotes du Québec incorporé, patriote avec un S, @ymail.com. Ciao!
jouse, faut que je te jouse.
On va te jouer.
Hey, Jerry Boulet, lui, nous en a offert des bonnes tunes du Québec. C'est spécial, tu sais, de manière, ceux qui ont... c'est qui connaissent un peu son histoire, c'est pas évident qu'est-ce qui est arrivé, là. Il a toffé jusqu'à la fin, Jerry. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux.tk. Voici ce qu'Yves Michaud disait. Yves Michaud, c'est un ancien député cofondateur du quotidien Le Jour avec Jacques Parizeau et René Lévesque. Et pour l'avoir rencontré, je l'ai rencontré, moi, c'est la... Vous savez, à chaque année, au mois de novembre, à Saint-Denis-sur-Richelieu, on fait tout le temps une commémoration, la victoire, on célèbre la victoire des Patriotes. Parce qu'à Saint-Denis, il y a eu une victoire. Et j'ai eu l'occasion de visiter et tout ça. On mangeait des bines, du pâté à viande, il y avait de la musique folklorique, c'était-tu le fun. Et on louait une grande salle, puis on faisait un dîner des Patriotes pour célébrer la victoire des Patriotes. Voici ce que Yves Michaud disait lors du lancement du livre de Jacques Parizeau en 2010. « Ils ne sont pas légions ceux et celles qui, dans l'histoire d'un peuple, impriment leur marque pour les vivants et pour la suite de leur monde. Jacques Parizeau est de ceux-là. Nous lui sommes redevables en tout ou en partie des outils économiques qui forgent le destin de notre collectivité nationale. Frère Jacques ne s'est jamais endormi. Il a construit tout cela dans la patience des jours recommencés, la fidélité à une grande œuvre et une inébranlable ténacité, accueillant les victoires et les défaites des deux menteurs du Kipling que l'on reçoit du même front si l'on veut devenir un homme. Jacques et moi étions membres du club distingué et vénérable des octogénaires. À cet âge, on a le bruit des luttes, des fureurs s'éloignent pour faire place à l'enivrant silence, des sommeils où l'on ne peut voir les plis tourmentés, des routes et des fleuves. La nuit où René Lévesque a rendu l'âme à l'hôpital, nous étions, Jacques et moi, discrètement retranchés dans une chambre, retenant notre immense chagrin. Je lui dis un vers du chant des partisans que René aimait. « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. » Jacques a pris le flambeau, il nous a enseigné la ferveur et a guidé notre peuple à la lisière même de la terre promise. Pour cela et pour tant de choses, la patrie lui est reconnaissante. Je lui souhaite, là où il repose, que l'aurore aux doigts de rose ouvre enfin la porte d'un jour qui verra la concrétisation de ses luttes, de ses combats et du statut dont il a rêvé pour le Québec et pour tous les Québécois. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux.tk en pleine émission spéciale de la fête nationale des Québécois, notre fête et bonne fête.
de mes frères m'y attend. Faudrait tirer, traîner le temps avec mon frère qui est dedans. Il pousse sur un très beau
Je voulais saluer également les gens qui sont sur la colline parlementaire au Parlement qui nous écoutent actuellement. Alors, salutations à vous autres.
Du soleil, de la chaleur pour les enfants. Flatter les chiens du vieux chasseur. Voir avec lui blanc. Traîner le sud vers le nord. Notre sud est notre tout blanc. Ton père parlait du Labrador.
Mon père parlait du Labrador.
Alors, je vous invite à rester avec nous autres toute la journée. On va mettre des petits extraits sonores, on va prendre un petit café. Et durant toute la journée, on va vous diffuser de la musique du Québec, de chez nous. Des fois en direct, des fois en balado. Alors, restez là. Et de 16h à 18h, j'ai FP en direct, comme d'habitude. Et une programmation tout à fait spéciale pour la fête nationale, notre fête nationale des Québécois.
Vers le nord, chanter l'été du Labrador, du Labrador. La pluie des chiens sur la neige, cherchant des chiens pour un traîneau. Les yeux.
rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Mars, l'Angleterre décrète les 10 résolutions Russell qui réduisent dramatiquement les pouvoirs du Parlement du Bas-Canada. 7 mai, première grande assemblée contre les résolutions Russell. L'assemblée de Saint-Ours a un immense retentissement et servira de modèle aux autres rassemblements patriotes. 15 mai, on est toujours en 1837, à Saint-Laurent, sur la Côte-Vertu, 3000 patriotes écoutent le plus célèbre discours de Louis-Joseph Papineau. Le tribun y lance un appel au boycottage des produits anglais et rappelle que le peuple est la seule autorité légitime. 25 mai 1837, Assemblée patriote à Patton. On propose d'implanter des institutions républicaines sur le modèle des États-Unis. 26 mai, le populaire journaliste Ludger Duvernay est élu par acclamation député de la Chenée et porté en triomphe par ses partisans. 1er juin, manifestation pro-patriote des Irlandais de Saint-Colomban. C'est un bon coin, ça?
Ah oui?
On continue en musique, puis on vient.
OK.
Alors, en vous le rappelant que vous écoutez Radio Fiatlux.tk, la radio planétaire en direct du centre-ville de Québec.
cherchions déjà depuis 3 jours et 3 nuits. Dans le silence épais, protégé des lianes, nos pas nous suivaient et moi je la précédais. Encore une fois, dit-elle, quand le soleil tombait, redis-moi comment, quel endroit nous irons, nous allons au dôme. Et là où nous allons, ne se trouve que des gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt et on dit qu'il est clair à des mille à la ronde, à des mille à la ronde. Les oiseaux chantonnaient dans la jungle maudite. Nous marchions lentement vers le dôme au sans nom. Elle suivait patiemment le chemin mal dessiné. Une fois dis-moi tous ces gens qui construisirent le dôme, pourquoi n'arrivèrent-ils qu'à cette seule solution? La question était bonne, alors je réfléchis, référant aux échos mille fois entendus. Il y a 20 ans, je crois, naquit le premier fou, puis plus tard eut lieu l'épidémie. Chaque ville posséda 2 ou 3 de ces fous, mais personne au début ne savait qu'ils étaient fous. Ils n'étaient anormaux que de par la faculté qu'ils avaient de ne jamais être intéressés plus longtemps qu'une minute à quoi que ce soit. Se tuèrent et les autres comprirent qu'il fallait rechercher un endroit où aller. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme au son nom. Et on dit qu'il est clair à 2000 à la ronde, à 2000 à la ronde, à la ronde, à
'Arrêt qui s'appelle le Wack and Roll. Pas pour faire de la publicité pour eux autres, mais c'est un bon restaurant chinois. Si vous aimez ça, attendez un petit peu, là. Bon, on est en direct, là, hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, OK. Alors, c'est ça, là, il y a quelque chose, là, j'ai essayé de l'arrêter. Bon, ça continue pareil. Alors, pour vous dire que j'ai rencontré Jean Leloup, et dans un restaurant, justement, le Wack and Roll, puis on fêtait Noël, moi et mon frère. Et puis j'ai dit à Jean, comment ça va? Tu connais-tu ça, Radio Fiat Lux? Ah, il dit, oui, je connais ça. Ah, j'ai dit, Jean, je commande une bouteille de saké, on l'appelle-tu à deux? Ah, il me répond, ben oui. J'avais que... OK. Ça fait que là, mon Jean le loup, la bouteille de saké arrive, deux verres. Mon frère, lui, il chauffe, fait qu'il voulait pas prendre trop boire. Alors, mon Jean le loup qui prend son verre, puis que ben après ça, il était avec sa blonde, j'ai souhaité un joyeux Noël, puis là, il dit, c'est pour toi, puis tu me dois rien. ça, c'est du genre le loup. Parce que c'est un hasard, là. On en parlait comme ça.
Fait qu'il connaissait Radio Fiat Lux, John John.
Exactement. C'est les musiciens, ceux qui connaissent la musique, puis qui aiment la musique, puis qui ils font le tour des radios, comme on dit.
Faut dire qu'on le fait rouler pas mal, la Radio Fiat Lux.
Ah oui, félicitations. Ouais. Je l'ai vu au Bonnet d'Âme.
Je l'aime bien, John John.
Pour les gens, il y a aussi un restaurant où il y a beaucoup d'artistes qui vont. C'est dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes qui habitent et qui demeurent dans ce quartier. Et justement, au Bonnet d'Âme, Jean Leloup, là, puis que j'ai rencontré, c'est l'année passée que je l'ai recroisé. Il était avec des amis.
Il restait à Québec un bout, là, Jean Leloup.
Oui, il est resté dans Saint-Jean-Baptiste. Il demeurait pas loin d'ici. Là.
On en mettra, il y a une toune qui s'est super appropriée à mettre à soir de lui. Là.
Oui.
Ça file.
OK, ça file, ça file.
Ça file dans mes oreilles.
OK, on va le baisser un petit peu. Alors, je vous laisse vous saluer tous ceux qui sont avec nous, qui nous tiennent compagnie en cette soirée de commémoration des Patriotes. Alors, la toune qui repart...
C'est mon téléphone.
OK, je pensais que c'était la toune qui partait, puis c'est le téléphone qui sort. OK, parce que ça faisait comme « Ta vie, ça chance ». Ça avait comme un petit peu la même chance. Alors, nous étions rendus
en 1837.
En 1837, là, ici, la barre que tu as faite ici, ouais. Tu as fait ici, là. Alors, le 1er juin 1837, l'Assemblée patriote à Saint-Hyacinthe, Michel Plamondon, propose que nous croyons devoir nous appliquer à ne consommer que des objets manufacturés dans ce pays ou introduits par contrebande. Parce que là, à ce moment-là, c'était la lutte pour, comme on dit, c'est comme si on disait, l'achat local, acheter chez nous, encourager nos manufactures, encourager nos affaires à nous autres. Pareil comme le protectionnisme qui se fait, même dans différents pays, puis s'il se passe le mot, hey, achète Made in Québec, tu sais, ça fait travailler nos usines, puis regarde, nous autres, on va les en vendre, mais n'en demeure pas moins que la qualité prime. Alors, le 1er juin, Assemblée patriote à Saint-Scolastique Léandre Dumouchel. Alors, il y a une Assemblée patriote
à Saint-Scolastique.
À Saint-Scolastique, qui propose que nous appelons le tous nos voeux, que nous appelons de tous nos voeux l'union entre les habitants de cette province, de toute croyance, de toute langue et origine, que pour la défense commune, pour l'honneur et le salut du pays, chacun doit faire le sacrifice de ses préjugés. Moi, on dit que c'est une bonne idée.
C'était progressiste, non?
C'était progressiste parce que justement, que ça revient à ce que le professeur disait ce matin lorsque nous étions au Normandin. Un éminent professeur qui dit que si le Québec devient un pays, il va falloir se rassembler tous, il va falloir communiquer, il va falloir se parler, s'asseoir à l'entour d'une table, puis pas se tirer dans le pied, s'entraider, puis avancer vers le même objectif. Faire en sorte qu'il y ait une détermination, qu'il y ait un plan de ce que le Québec pourrait être comme pays, un plan précis. Avec Legault le fait, mais il a viré son capot. Évidemment, c'est triste, mais c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui est arrivé. Alors, le 4 juin, une grande assemblée patriote réunit 3000 personnes à Québec sous la présidence d'Augustin Norbert Morin. Le 18 juin, assemblée patriote à Berthier, malgré l'opposition des seigneurs locaux, Jane Cuthbert et Barthélémy Joliette. Le 18 juin, 700 à 800 patriotes réunis devant l'église Saint-François de Yamaska, dont plusieurs abénakis de la mission d'Odanak, preuve de l'intérêt des Autochtones pour la lutte patriote. Le 25 juin, assemblée patriote à la Malbaie, Joseph Brassard déclare que nous considérons comme rompu et nul le contrat social qui nous attachait à l'Empire britannique, qui en cessant de remplir ses engagements, nous relève des obligations que les traités nous imposent. 26 juin, à Montmagny, Étienne-Pascal Taché lance un vibrant appel au boycottage des produits anglais devant 600 personnes. Un corps de cavalerie et une compagnie d'artillerie. 29 juin, Assemblée patriote à Raiden. Papineau y est déclaré père de la patrie.
Louis-Joseph Papineau.
L'expression « la tête à Papineau », c'est...
Ça vient de là. Ils ont tranché la tête à Saint-Eustache.
Voyez. Il s'est passé bien des choses.
Ça, c'est un peu plus tard, ça s'en vient.
Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de trancher de tête et de mettre une muselière invisible. Ça fait pareil.
Ouais.
Alors, le 4 juillet, à Stanbridge, des patriotes anglophones célèbrent la fête nationale des États-Unis en brûlant le drapeau anglais Union Jack devant 2000 personnes. Le 17 juillet, Grande Assemblée patriote à Napierville. 4000 personnes y assistent, soit en principe le tiers de la population du comté. Le 16 juillet, à Deschambault, c'est dans le comté de Portneuf, ça c'est pas loin d'ici, là, pas loin de Trois-Rivières, une assemblée patriote dénonce les résolutions Russell. Le 26 juillet, au moins 5000 personnes assistent à la Grande Assemblée patriote de Yamachiche, précédée d'un défilé et d'une fête populaire. Le 29 juin, 4000 personnes réunies à l'Assomption dénoncent le gouvernement anglais et réclament l'électivité du Conseil législatif. Le 4 août, Assemblée patriote à Aylmer, où se trouvent plusieurs Schreiner, ces bûcherons canadiens en lutte contre leur patron britannique. Le 31 août 1837, l'Association des dames patriotiques du comté de Deux-Montagnes est fondée. Des femmes fabriquent des munitions et confectionnent même un drapeau patriote. Le 6 août, Grande Assemblée patriote à Saint-Constant, organisée par le député Joseph Narcisse Cardinal. Le 6 août, Assemblée patriote à Saint-Michel de Yamaska, on exige l'abolition du régime seigneurial et la redistribution des terres.
Là, on est en 1837. On est moins d'un an et demi de ce qui va arriver le 15 février 1839, la pendaison des patriotes. Ça bougeait pas mal.
Exactement.
Tout le monde se rassemblait partout. Puis c'était un mouvement national. Là.
Puis les gens étaient... Les gens, on dirait qu'ils comprenaient qu'est-ce qui se passait parce qu'ils devaient payer. Puis à ce moment-là, le Bas-Canada, évidemment, qui était plus riche aussi, puis que, bon, c'est l'ennemi anglais qui voulait s'imposer puis qui voulait faire en sorte de... Il y avait tout le côté aussi pécunier qui est non négligeable. Alors, le 5 septembre, c'est-à-dire le 25 août, 3000 personnes à Bécancour autour du patriote Jean-Baptiste Hébert. L'Assemblée tourne à l'émeute quand les loyaux de Trois-Rivières tentent de s'interposer. Le 5 septembre, 700 jeunes Montréalais fondent la Société des Fils de la Liberté, destinée à libérer leur patrie du joug colonial. André Ouimet préside la section civile et Thomas Tarrow Brown, la section militaire. Le 22 septembre, les Septembre briseurs de Siméon Marchessault organisent à Saint-Antoine plusieurs charivaris, des manifestations parfois violentes, contre des Chouaniens, ses alliés du gouvernement anglais.
Tu sais, c'est quoi des charivaris?
Ah oui, explique-nous donc ça.
Un charivari, c'est quand...
C'est un jeu?
Non, tout le monde se présente à la maison de quelqu'un.
Oui.
Puis ils foutent le bordel.
OK.
C'est ça, un charivari.
Mais c'est aussi un jeu.
Un jeu à télé un petit peu plus tard.
Oui, à télévision.
quelques dizaines d'années.
Mais c'est bon que tu l'aies, charivari, c'était pas évident. On appelle ça aujourd'hui des invasions de domicile. on remonte à notre époque. Alors, je vais vous en lire trois autres. Après ça, on va faire une pause. Alors, c'est le fun, moi puis Bicnic. Bon, on s'échange ça, puis en même temps, ben, ça nous fait connaître un peu l'histoire des patriotes. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui est arrivé?
C'est quoi cette histoire-là?
C'est quoi FM? Vendu à la famille Leclerc. Hey, moi, je fais partie de la famille Leclerc. Ma mère, c'est une Leclerc. Faudrait que je vérifie si ma famille a acheté un poste de radio. ben, pas un, deux. Faudrait que je m'informe, là.
T'as peut-être une station de radio. Tu en as peut-être hérité, puis tu le sais pas.
Ah, qui sait? Alors, avant de faire la pause, alors ici, on était rendu au 24 septembre. Le seigneur Godefroy de Tonnancourt est victime d'un charivari. Ça, je vous l'ai dit. Alors, les septembrières rencontrent de la résistance chez Dame Rosalie Cherrier. Une fusillade fait deux blessés et la foule exprime sa fureur en démolissant la maison. 26 septembre, à Saint-Our, le seigneur, il y a comme un nom allemand, Debartz, est victime d'un terrifiant charivari organisé par les septembriseurs. Le 1er octobre, assemblée des dames des patriotes, des dames patriotes de contre-cœur à la maison Le Noblet Duplessis. 23-24 septembre, deux jours durant, 6000 patriotes sont réunis à Saint-Charles pour fonder la Confédération des six comtés et jeter les bases d'une constitution d'un Bas-Canada indépendant.
Ça brassait pas mal.
Mesdames et messieurs, vous écoutez...
En même temps, il y avait un gros mouvement politique progressiste pour prendre les choses en main, les 92 résolutions...
Puis il y a eu les 10 résolutions, il y en a eu 10 aussi, les 10 principales.
Je l'ai mouvement réformiste, là, les gens voulaient prendre le pouvoir légitimement.
OK.
Parce que c'est sûr que les Anglais ont dû capoter.
Exactement.
Il faut faire quelque chose pour qu'ils se calment.
Bien, ils se sont organisés pour prendre... c'est qui avait le plus d'argent à ce moment-là? C'était le Bas-Canada. Alors, leur visée venait de loin, mais ils s'étaient bien organisés. Vous écoutez Radio Fiat Lux, on fait une pause.
La suite après la pause.
Après la pause. OK, on va essayer de démêler l'affaire. C'est parce que... OK, là, on est rendu ici. Là, OK, là, je sais pourquoi là, que ça fait ça. OK.
C'est iTunes qui joue.
OK, c'est iTunes, j'ai oublié de fermer. Alors, ce ne sera pas long, mesdames et messieurs, là, le petit contretemps. En tout cas, on est bien content que vous soyez avec nous autres. OK. Alors, on va juste fermer...
C'était bon, ça, là, par exemple. Le monde est à pleurer.
OK.
Un autre de John Jones.
OK, alors on va la remettre, hein. Le monde est à pleurer, j'aimais ça. On va l'écouter. Alors, avec notre ami Leclerc, c'est parce que le monde dit Jean Leloup, mais hey, c'est mon petit cousin de la fesse de gauche. Jean Leclerc, Leloup. On l'écoute sur Radio Fiat Lux. Ouais.
Je suis sincérité. Toute sincérité. Toute sincérité. Toute sincérité. Toute sincérité.
D'écouter Radio Fiat Lux, émission spéciale sur la commémoration des Patriotes du Québec 2012. Bicnic, la suite.
On est en 1837.
C'est vrai que c'est une belle histoire. C'est vrai que c'est une belle histoire, disons, les Patriotes.
Disons, ben, une belle histoire, ça dépend comment tu regardes ça.
Ben, c'est une belle histoire dans le sens que ça nous remémore qu'est-ce qui s'est passé. C'est, ouais. Non, c'est pas une belle histoire pour, par rapport à ce que...
Les gens sont révoltés.
Mais non? Si les gens prenaient la peine... Il est pas ouvert, ton micro?
Il est ouvert, il est pas fort.
OK. Bon. Si les gens prenaient la peine... Merci. Alors, si les gens prenaient la peine de comprendre l'histoire des Patriotes puis de se réveiller un petit peu, peut-être qu'il y aurait des changements qui se passeraient. Moi, j'ai invité beaucoup de gens, puis on commencera pas à parler juste d'Asie, puis c'est un zoo. On commencera pas ça, là, tu sais. Une chose est certaine, c'est j'ai eu affaire à plusieurs petits Elvis Gratton. Et je nomme pas de nom. Ceux qui nous écoutent puis qui devaient agir, faire des choses, gardez. Et moi, c'est une fierté. Je suis content d'être au micro avec vous autres sur Internet. Parce que l'Internet, on l'a prouvé. Puis on a rendu hommage même hier avec Gab Paquette à la librairie Saint-Jean-Baptiste. On a rendu hommage à deux stations de radio. Radio X2, Babu Marcotte le matin, qui nous a ouvert le micro ce matin, qui a envoyé un reporter en direct, qui m'attendait, là, je n'étais même pas encore arrivé, puis il était live devant le restaurant. Genre, j'ai pas encore arrivé. On va faire un montage, puis on va faire écouter ça durant l'émission GFP en direct. Peut-être vendredi ou demain, si j'ai le temps de faire le montage. On vous fera écouter ça, le montage, c'est presque à se plier en deux, là, tellement que c'est comique. Alors, Bicnic, on continue l'histoire des Patriotes du Québec, nos courageux Patriotes. Fallait-il avoir du courage? C'était pas évident.
Ouais, on est rendu le 1er octobre. Les Patriotes commencent à s'organiser tranquillement. 1er octobre 1837. Alors, il y a l'Assemblée des Dames Patriotes de Contrecoeur à la maison Le Noblet du Plessis. Je sais pas c'est où exactement. Je regarde sur la carte. Je vois pas, là. Tu connais tout ça, toi, Le Noblet du Plessis? Le 23-24 octobre, deux jours durant, 7000 patriotes sont réunis à Saint-Charles pour fonder la Confédération des six comtés et jeter les bases d'une constitution d'un Bas-Canada indépendant. Le 5 novembre, à Saint-Jean, plusieurs loyaux sont victimes de charivari fomentés par Cyril Côté et Louis de Coigne. 5 novembre toujours, série de charivari spectaculaires à Saint-Hyacinthe, notamment contre le facteur d'orgue Jean-Baptiste Cazavant. Eh ben... Le 6 novembre, les Fils de la Liberté affrontent les membres du Doric Club sur la place d'Armes à Montréal. L'émeute s'étend à toute la ville, il y a plusieurs blessés, dont Chevalier de Lorimier. Comme vous pouvez voir, ça brassait pas mal en 1837. 7 novembre, agitation à Saint-Athanase. Les Patriotes s'emparent notamment du commerce de Charles Mongeau, de l'auberge de François Massé et de la boucherie de Jean-Baptiste Arcan. Le 10 novembre, un groupe de patriotes armés de piques, de fourches et d'un petit canon harcèle l'armée à Saint-Jean. Le 16 novembre, des mandats d'arrêt sont émis contre 26 chefs patriotes, dont Papineau, dans le but de décapiter le mouvement réformiste. Ouais, ils ont choisi le terme, décapiter le mouvement. Plus tard, ils vont décapiter Papineau. À Drummondville, le major Frédéric Georges Hériot ratisse la région à la recherche de patriotes. Major Frédéric Georges Hériot. 17 novembre 1837, un régiment de volontaires tombe dans une embuscade tendue par des patriotes à Longueuil. Il y a 5 blessés et 2 prisonniers sont libérés. Le 17 novembre toujours, conseil de guerre à Varennes en présence de Papineau. On prend la décision d'organiser la résistance contre l'armée anglaise. Le 20 novembre, Narcisse Valois et FX Desjardins commandent une vingtaine de cavaliers qui ratissent Vaudreuil afin d'amasser des armes et de recruter des partisans. Ils sont arrêtés le soir même et conduits à la prison de Montréal. Fait que le mouvement de révolte commence à s'organiser. 20 novembre, les Patriotes dévalisent le coffre-fort de la paroisse de Saint-Denis. 20 novembre toujours, sous le commandement de Jérôme Lompré, 200 à 300 Patriotes de Saint-Jérôme perquisitionnent des maisons à New Paisley et de New Glasgow avant de rallier le camp de Saint-Eustache, où c'est que je suis né.
18 novembre, rafle policière à Québec où des dizaines de personnes sont arrêtées pour sympathie patriote. Des manifestations ont lieu pour dénoncer les arrestations arbitraires. Les bagarres éclatent dans les chantiers maritimes. Le couvre-feu est décrété et la haute ville est verrouillée. Tandis que les banques mettent leur numéraire à l'abri de la citadelle. 22 novembre, attaque contre des loyaux de Saint-Hyacinthe rassemblés au magasin de William Schaffers. 23 novembre, on voit que les dates sont de plus en plus rapprochées. Là. Il y a des événements presque à chaque jour. 23 novembre, à Saint-Denis, l'armée anglaise affronte des patriotes embusqués dans une maison fortifiée sous le commandement de Wilfred Nelson. Après 3 heures de combat, l'armée doit reculer devant la résistance patriote. On dénombre environ 12 morts. 24 novembre, le lendemain, les patriotes prennent d'assaut le village de Saint-Eustache. Le curé hostile est emprisonné tandis que les ressources sont réquisitionnées par un comité militaire dirigé par Amory Giraud et Jean Amory. Amory, drôle de nom, Amory. Et Jean-Olivier Chéné. 25 novembre, Saint-Charles est pris d'assaut par l'armée et emporté par une charge à la baïonnette qui fait au moins 50 morts. Puis là, c'est jour après jour un événement. C'est la guerre presque ouverte entre les Anglais et les Patriotes. Est-ce qu'on continue avec un petit peu de musique, Georges?
Comme tu veux. Tu peux-tu continuer encore? Je vais juste trouver
une tonne. On est quasiment allé à moitié. Là.
OK. On va y aller avec une tonne, si ça peut ouvrir.
Bon, alors mon micro t'as pas ouvert. Ben,
je vais continuer un petit peu. 27 okay. novembre.
Alors, je vais trouver une belle tonne.
Trouve-moi une belle tonne qui fait avec ça. Oui. Au terme d'un procès sommaire, des Patriotes de Saint-Blaise exécutent Joseph Chartrand, soupçonné de collaboration avec l'ennemi anglais. Ça, on a une longue tradition de ça. 28 novembre, au retour de... Je parle de tradition de collaboration avec... Il y a beaucoup de collabos au Québec.
Il y en a encore. Hein?
Là, c'est jour
après
jour.
Il y en a encore en masse en nombre.
Il y en a même au gouvernement. 28 novembre, au retour de Saint-Charles, l'armée affronte 2000 hommes rassemblés par E.E. Je ne sais pas c'est qui. E.E. Malliotte. C'est quoi? Étienne, ennemi Étienne. Malliot. Et Toussaint Godu à Pointe-Olivier, Saint-Mathias. L'échafouré fait 2 morts. Là, ça commence à être grave. Hein? Tout le monde meurt partout. Pendant la Révolution. 30 novembre, les Patriotes de Saint-Eustache opèrent un raid chez les Amérindiens d'Oka et s'emparent d'un canon et de quelques fusils. C'est bon, les Amérindiens avaient des canons et des fusils déjà à Oka en 1837. 2 décembre, retour de l'armée à Saint-Denis qui prend ainsi sa revanche en incendiant le village. 3 décembre, l'armée est à Saint-Hyacinthe où on fouille systématiquement le séminaire à la recherche de patriotes en fuite. Certains y sont pourtant cachés, mais 10 décembre, conseil de guerre à Lachenay en vue de porter secours aux patriotes de Deux-Montagnes. 5 décembre, Louis-Joseph Papineau et Edmond B. O'Callaghan trouvent refuge à Henryville où des partisans les guident jusqu'au Vermont par la baie Missisquoi. Papineau se pousse avec O'Callaghan au Vermont. 5 décembre, la loi martiale est proclamée dans le district de Montréal. Elle sera levée en avril 1838, mais rétablie dès novembre suivant pour une durée de 3 ans. 5 décembre 1837, des loyaux de Saint-Armand qui s'attendent à une attaque patriote reçoivent un chargement d'armes à Philippsburg. T'as-tu quelque chose? 6 décembre, 80 patriotes réfugiés au Vermont surgissent à Saint-Armand où ils sont repoussés par 300 loyaux à la bataille de Moore's Corner. 6 décembre toujours, Jean-Olivier Chénier fait détruire le pont de Saint-Eustache afin d'entraver la marche de l'armée. 10 décembre, l'armée anglaise prend pied sur l'île Jésus à Laval et perquisitionne notamment la maison d'André Benjamin Papineau. 11 décembre, plusieurs patriotes anglophones sont arrêtés pour trahison à Sherbrooke, dont George Washington Brooks, frère du puissant Samuel Brooks. La suite après la pause.
Vous êtes sur Fiat Lux Radio.
Yeah.
avec l'aile doucement repliée, sans testament et se mirant dans l'or des lunes de mon épi, tout brillant du sang de l'angle le vent.
on est de retour. L'émission spéciale sur la commémoration des patriotes québécois. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux.tk. Et ça me rappelle des souvenirs d'LS Radio. La toune que vous venez d'entendre, Engagement. Et vous savez, les gars de radio, on a vu les gros chars passer en arrière de la cour, hein, comme on dit des fois. Et moi, je me souviendrai toujours qu'à l'époque de LS Radio, puis à l'époque de Radio Mutuelle, peut-être un peu plus tard, il s'est passé des affaires. La station de radio a déjà été prise en otage. Il y a des gens, même à CJRP, où il y avait des luttes qui se faisaient pas mal. Ça a brassé dans ces années-là. Des gens qui ont occupé des stations de radio, puis qui sont rentrés là, ils ont défoncé la porte. Entre autres, j'ai souvenir de m'avoir fait raconter un petit peu avant que j'arrive à Radio Mutuelle, à CJRP, sur le boulevard Laurier, la station. C'est une espèce de gros bungalow qui existe encore, qui est toujours là. Quand vous arrivez à Sillery, le Y, là, pour aller vers la rue Saint-Chemin-Saint-Louis, alors la station étant toujours là encore. Et j'ai souvenir qu'à un moment donné, il y a deux, trois autobus qui sont débarqués là, puis qui sont de plein de monde, puis qui ont rentré dans la station. Alors, ils ont demandé à l'animateur et aux journalistes de sortir, et on avait pris le contrôle des ondes. On avait raconté ça, puis tout le monde, après ça, ben, il avait installé un système de sécurité à ce moment-là avec un... Pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve que plus que jamais, à cette heure, quand tu vas dans les postes de radio, tu as tout le temps l'impression, c'est des bunkers. Je suis allé à Chise faire des entrevues. Faut-tu descendre quasiment dans un trou? Je sais pas si ça avait déjà été à Chise FM. Est-ce que tu as déjà été à Chise? T'as déjà été à Chise?
Allô? Centre Desjardins?
Ah, tu descends quasiment dans un trou, là. C'est quasiment un abri nucléaire.
Ouais, mais ça, c'est parce que c'est des locaux de l'université, ils sont tous comme ça.
Puis imaginez-vous, le feu a pris là. Puis moi, j'avais contacté le directeur des programmes. Il y a eu un feu adjacent, pas loin de là. Puis la station, le directeur des programmes faisait comme nous autres, la radio Internet. Sauf que il mettait en onde le lien Internet de la radio. C'est comme si nous autres, Radio Fiatlux, quelqu'un nous rediffuserait. Prendrait notre signal puis mettait ça carrément en onde. C'est possible à faire, ça
ben,
se fait.
Ouais, Radio Fiatlux est né pour ça.
C'est parce que c'est possible de. Techniquement parlant, là, n'importe quel diffuseur pourrait dire bon, on va se brancher sur Radio Fiatlux. C'est pas compliqué, gars. On y va, gars, pour mettre ça. La console, on lève le pot. Ils ont juste potentiellement à être élevés. Ouais. C'est pas plus compliqué.
Mais c'est pour que ça. C'est pour ça que Radio Fiatlux s'est mis sur pied.
J'avais pas pensé de dire à Babu, parce que je pense que Babu est directeur des programmes aussi de la station. Puis je tiens à les féliciter de la station Radio X2. J'avais pensé d'y proposer ça. Regarde, tu as une émission spéciale. Regarde. Sauf que j'ai pas eu le temps. Il fallait que j'avais toutes sortes d'affaires à régler en même temps. Puis des gens à rencontrer. Puis de répondre au téléphone. Ça a l'air de rien, mais c'est la situation. Alors, on va continuer dans l'histoire des patriotes québécois que moi, je trouve intéressante. L'histoire des Québécois, de ce qui se passait. Alors, on est rendu au 14 décembre de 1837.
Rendu à Saint-Eustache.
Alors, une imposante armée de 1500 soldats marche sur Saint-Eustache où 300 patriotes sont écrasés. C'est pas compliqué, ils sont écrasés. Alors, l'attaque fait au moins 70 morts et le village est incendié. Le 15 décembre, après sa victoire à Saint-Eustache, l'armée britannique marche sur Saint-Benoît. Saint-Benoît, ça, c'est-tu plus vers le nord ou vers l'est ou l'ouest? Là? Saint-Benoît, c'est pas loin de Saint-Eustache?
Si je me souviens bien, c'est plus vers l'ouest, Saint-Benoît.
Plus vers l'ouest, OK. Alors, qui est incendié à son tour. Alors, le 16 décembre, Sainte-Scolastique, Sainte-Thérèse et Blainville sont visités par l'armée anglaise qui incendie des maisons et arrête plusieurs suspects. Le 21 décembre, un régiment de Royal Incendie, le blocus de Coteau-du-Lac, de crainte qu'il ne tombe aux mains des patriotes et en fasse une forteresse. Alors, on va vous revenir avec ce qui s'est passé à partir de 1838. On va aller jusqu'en 1839. Et je vous dis que l'histoire des patriotes, ça va bien, c'est intéressant. On va vous faire écouter de la musique, puis ça avance quand même assez vite. On a presque terminé toute l'histoire des patriotes. En résumé, alors je tiens à vous rappeler que vous écoutez Radio Fiatlux.tk, la radio planétaire en direct du centre-ville de Québec. On va écouter une autre tourne de Charlebois. Moi, je l'aime bien. C'est de valeur. Quand j'ai vu sa photo avec Paul Desmarais, là, ça m'a fait tiquer un petit peu. Mais coudonc, c'est un artiste. Puis, je pense. On écoute la musique de Charlebois. Vous écoutez Fiat Lux. Ça nous fait plaisir d'être avec vous ce soir dans cette émission spéciale sur la commémoration des Patriotes. Et je dois vous dire que j'ai bien aimé ma journée. Journée, je vous dirais, bien remplie parce que moi, j'ai tout le temps aimé ça, le savoir. Le savoir, tout simplement. Savoir des choses, découvrir des nouvelles choses. Et les espèces d'érudits qui sortent pas souvent, des fois, ben, on est rencontré quelques-uns. Et c'est pour ça que dans les extraits que vous allez entendre de Radio X2, lorsque l'animateur en direct était dans la salle de conférence où les gens étaient là, alors il trouvait ça bizarre, il n'y a personne qui voulait parler. Fait que moi, j'ai fait une joke, j'ai dit, garde, j'ai dit, les politiciens sont comme ça, là. C'est pas de commentaires. Pas de commentaires, ça veut dire qu'ils... Sauf que ça a été quand même intéressant de voir toute l'équipe de Radio X2 se présenter là, puis de... Je trouve que les gars, ils ont été corrects. Moi, j'appelle ça de la liberté d'expression, une radio libre. On va écouter, on va enchaîner avec une toune de Tex Lecor, une vieille toune. Vous savez, au Québec, il y a eu quelques tonnes qui ont été censurées dans l'histoire de la radio au Québec, dans l'histoire de notre culture, dans l'histoire de nos médias, de nos diffuseurs. Et il y avait cette chanson-là qui faisait partie de, du répertoire qu'on appelle « Mise à l'index ». Alors, il y avait la chanson du groupe La Révolution française québécois que je vais vous faire écouter après celle-là, puis Becknick nous revient avec la suite de l'histoire des Patriotes. Et je vais vous faire écouter la toune de la Révolution française québécois. Et cette toune-là était interdite de diffusion dans la province de Québec. Parce que dans ce temps-là, on était encore plus Canadiens-Français qu'aujourd'hui, on est plus Québécois. Fait qu'on, je vous fais écouter, on écoute Tex Lecor, une bonne vieille toune qu'il a fait quand il a commencé à chanter avec sa guitare. Puis qui est arrivé complètement perdu dans le centre-ville de Montréal, parce que c'était un gars de bois. Et vous connaissez Tex aussi par sa chanson à Noël, le Noël du campeur, que tout le monde connaît ça. Je connais pas personne qui connaît pas ce nom-là. Alors on y va avec Tex Lecor, là, Patriote.
Surtout Tex Lecor pour les insolences d'un téléphone qui faisait assez
casser.
Ah oui,
à radio, oui.
Mais quand j'étais petit, j'étais dans le coin de Montréal, on écoutait ça, c'est cassé, on écoutait le baseball l'été.
Oui.
Allô?
Oui, oui. Puis, moi, j'aimais ça, le baseball, quand il gagnait pas mal. Là,
les expos. Hein.
T'en souviens-tu, les expos, ben quand moi, je suivais ça, on écoutait ça sur le balcon, la petite TV noir et blanc sur le balcon.
C'est toujours bien drôle, les insolences d'un téléphone. Là. Il y a plus du monde, puis il faisait des...
Ben oui, puis c'est un artiste, puis il faisait... Mais c'est un bon peintre aussi,
Il a tout fait.
Beau créateur.
Il a tout fait. Absolument. La radio, il fait de la musique.
Tu me dis qu'il est peintre, je ne savais même pas. Oui, il est peintre. Maintenant, il se concentre beaucoup dans l'élaboration de tableaux, là, dans la peinture. Il est pas mal là-dessus, puis il vend des tableaux, puis il est là-dedans depuis plusieurs années.
C'est bon, ça.
Alors, il va avec la suite de l'histoire
en
de l'Ontario.
En 1838, les Anglais ont plusieurs victoires, viennent de marcher sur Saint-Eustache avec 1500 soldats sur Saint-Benoît. Sinon, on marchait à Saint-Scolastique, Sainte-Thérèse et Blainville. Puis là, ben, je veux dire, ils se sont promenés, puis je pense qu'ils ne faisaient pas bien attention au monde. Là. Puis ils ont incendié quoi? Le blockhouse de Coteau-du-Lac. Fait qu'on arrive en 1838, le 11 janvier. Une centaine de soldats sont dépêchés à Trois-Rivières pour protéger les forges du Saint-Maurice. Le 21 janvier, le député de Drummond, Edward Toomey, se joint aux Patriotes, tandis que le pasteur McMahon accuse ses paroissiens de Tingwick de déloyauté envers la couronne anglaise. Le 24 février 1838, mystérieux vol d'armes à Elizabethtown, New York, où 1000 fusils sont discrètement acheminés aux Patriotes avec la complicité des autorités américaines. 27 février, un groupe de Patriotes commandé par Hiram Blanchard traverse la frontière à Troyes et attaque des loyaux à Potton, Mansonville aujourd'hui. Il y a un mort et trois blessés.
Excuse-moi.
3 et 4 novembre, rassemblement patriote à Saint-Mathias autour de Louis Bourdon, en vue de s'emparer de Fort Chambly. 4 novembre, 300 patriotes. Ah, je n'ai raté un bout, là. Moi, c'est ça. 27 février, je suis rendu en novembre. 27 février, bon. On retourne au 27 février. 28 février, lors d'une incursion à Clarenceville, 600 patriotes menés par Robert Nelson proclament l'indépendance de la République du Bas-Canada. Mars, création des Frères Chasseurs, une organisation secrète patriote destinée à tenir un soulèvement en novembre 1838. 22 juin, le patriote Louis Lucier réussit à s'évader de la prison de Montréal grâce au mutisme d'un chien de garde qu'il avait fini par amadouer. Il passe ensuite aux États-Unis. Fait que là, dans ce temps-là, les États-Unis avaient bien, bien envie qu'on se révolte. Hein? Ils étaient de notre bord. 3 novembre, des frères chasseurs remontent la rivière à la Tortue et perquisitionnent les maisons de leurs adversaires. Il y a échange de coups de feu et au moins un mort. Deux patriotes seront plus tard pendus dans cette affaire. 3 novembre, à Beauharnois, des frères chasseurs commandés par Chevalier de Lorimy et François-Xavier Prieur s'emparent d'un bateau à vapeur, attaquent le manoir du seigneur Ellis, puis rallient le camp de Napierville. Ou Napierville. Je connais pas ce coin-là. 3 novembre, à Châteauguay, des frères chasseurs menés par le député cardinal tentent de désarmer les Amérindiens de Kanawake. Ils sont faits prisonniers et livrés au gouvernement. Les meneurs sont pendus le mois suivant. Et ça commençait déjà à pendre. 3 et 4 novembre, rassemblement patriote à Saint-Mathias autour de Louis Bourdon en vue de s'emparer de Fort Chambly. 4 novembre, 300 patriotes se rendent au moulin Meigs de Marieville, où ils doivent trouver des armes, puis s'emparer du village de Christieville, aujourd'hui Iberville. 4 novembre, toujours en 1838, la famille Prévost de Sainte-Anne-des-Plaines, dénommée les Lions du Nord, assermente plusieurs frères chasseurs et fournit des combattants décidés au camp de Terrebonne. 4 novembre, des patriotes d'Éloie Marié et de Charles-Guillaume Bouc s'emparent de Terrebonne. Un traité de paix est signé sous le patronage du seigneur Joseph Masson, évitant ainsi une effusion de sang. 5 novembre, le camp de Napierville compte 4000 hommes, commandés par Charles Hindenlang et Robert Nelson. Ils attendent des armes des États-Unis. 6 novembre. Une centaine de frères chasseurs commandés par Cyril Côté et Lucien Gagnon affrontent des loyaux barricadés dans le blockhouse de la colle. C'est une victoire patriote, mais l'armée se lance à la poursuite de la colonne de Côté. 7 novembre, après avoir pris livraison d'un convoi d'armes, les hommes de Côté sont assaillis par les loyaux d'Odeltown et de Hemingford. Il y a plusieurs morts et les armes sont perdues. La défaite de la colle a des conséquences dramatiques pour les patriotes.
Comme Babu a déjà travaillé à Musique Plus, on va vous faire écouter un extrait de Musique Plus à l'époque où Babu de Radio X2 travaillait. On écoute ça. Vous allez voir que le son, il est pas mal bon.
Oh.
sais pas si c'est le bon extrait. Il y a deux extraits de celui-là que je vous fais entendre. Ça, c'est le fameux disque que je vous dis qui était. Il y avait une levée d'interdit sur ce disque-là au Québec. Ce disque était mis à l'index. Alors, je sais pas si c'est le bon, là, mais il y en a deux de la même chose, mais il y en a un qui coupe, là, des deux. Alors, ne soyez pas surpris si vous voyez que ça coupe. Alors, on écoute la Révolution française. Alors, c'est pas celui-là. Alors, ça doit être l'autre, là, ce qu'il est, là. Hey, ça me fait penser quand j'étais à Simi, ça, c'était... qui ouait un disque en onde, mesdames et messieurs. C'est extraordinaire. C'est parce que j'avais jamais entendu un animateur dire, bon, c'est parce que... Allez, je vais vous conter l'anecdote, là, ça vaut à peine. C'est parce qu'il y avait deux CD, puis il y en a un qui était scrap, je sais pas, qui avait été... Il y a eu du sabotage, il y a eu toutes sortes d'affaires, cette station de radio-là qu'on a essayé de sauver. Alors, on va y aller avec le deuxième extrait. C'est parce qu'il y en a un qui était scratch, mais c'est parce que c'est les deux mêmes photos qu'il y a sur le YouTube, là, c'est pour ça. Alors, on y va avec le deuxième extrait de La Révolution française, un disque qui a été d'interdit de diffusion au Québec dans les années 70.
Vous êtes dans l'émission GFP en direct. En direct du studio B. Comment ça va, vous autres, ce matin? On va acheter nos affaires. Et on est le 23 juin. Vous savez qu'aujourd'hui, émission spéciale pendant deux jours ici sur Radio Fiat Lux, du matin jusqu'au soir. On va vous faire écouter toutes sortes d'affaires. C'est Georges Attendez un petit peu, je vais ajuster mon micro parce que j'ai eu un petit problème technique au départ. Donc, vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux.tk. Ce matin, j'ai eu l'occasion de parler avec l'animateur de Good Morning Québec sur Radio X. Et imaginez-vous donc que le bonhomme, je voulais justement parler de la Saint-Jean-Baptiste.
Avec votre musique,
je vous entends rêver, douce comme rivière. Je vous entends claquer comme voile du large.
Je vous entends gronder comme chute en montagne. Je vous entends rouler comme un baril de poudre.
Je vous entends monter comme un grain de 4 heures. Je vous entends cogner comme un mer en falaise. Je vous entends passer comme un glace en débâcle. Je vous entends demain parler de liberté.
C'est notre fête comme Québécois, puis je vais vous faire triper. Pendant 2 jours de temps, en direct du Studio B, on va avoir toutes sortes de surprises à vous, pour vous autres, sur les ondes de Radio Fiatlux.tk, la radio indépendante du centre-ville de Québec, avec les meilleurs succès québécois, rock, etc. de tous les temps. Alors, on vous réserve plusieurs surprises durant les deux jours d'émission en direct du Studio B. On aura aussi des extraits sonores, des montages, alors tout ça sur les ondes de Radio Fiat Lux. Et à 8h30, on aura également un survol de l'actualité, de ce qui se passe avec la fête nationale et tout ça. Dans l'émission GFP en direct, et c'est Georges Fernand Poirier qui vous accompagne jusqu'à toute la journée, en fait.
Avec les régimes ONI, j'affûte mes flûtes, puis je réfute le vous fûte ceci. Me méfie des vous fites filles, des juifs, puis des fifs ici, de tout ce qui se différencie. Que s'il fallut qu'il y eût des fours ici, vous en auriez fait pour sûr du poulet frit. En fait, vous êtes tous autant que vous êtes ici, des fous, des groupies, de la mégroupie. Quand oui, roussi, on les écoute, dit faut autodapper tout ce qui nous fait honte. De pontif qui réclame ta tripée sur un hôtel apocryphe. L'holocauste de nos désirs travesti en vice, sans tard, en atavisme, le bon en place et brûlé vif. Tu es dans l'œuf, l'avenir qui s'éniche. Je vérifie, j'y pille, je trouve que j'ai de l'argent mystifie. On nous mystifie à la fin des années folles. L'hystérie fut fort bien répartie.
Merci.
Mais qui m'a dit qu'ignorance et amnésie d'une carte blanche de toute hypocrisie? Ainsi, si Céline est antisémite, puis qui cite, on est franco, ipso facto, on se mérite. Le titre de ce facho, nous sommes mérites, surtout qu'on oublie vite qu'en Ontario, les plages furent interdites aux juifs, aux chiens, puis aux négros. Dans l'ambitexto, si je dis c'est que je suis moi-même un nègre, mais blanchi à la chaux, tandis que McGill est contingenté au bachot. On faisait du textile avec les cheveux des juifs à tacho, point de matériaux comme les arbres de la Daishoa. C'est ça la Shoah, chaud, soit ciao, avec les mots. Tu me laisses pas d'autre choix, toi.
Dans la délation, devient mouchard en voulant faire le beau. Quand un premier ministre vire capot.
En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir si à un moment donné, on va avoir un premier ministre au Québec qui va garder ses culottes, puis qui va finir par faire en sorte qu'on a un butoir, on a un mur continuel qui va tenir ses culottes, puis qui va faire de la... Ben, je pense que François Legault a commencé à en parler concernant la loi 101, de faire respecter la loi 101 qu'on a tellement charcutée. Et je vous rappelle que hier, sur la rue Saint-Jean, j'ai rencontré Sylvain Gaudreau et je l'ai invité. Sylvain, c'est un des chefs qui a été... il n'a pas été nommé encore, mais il a été choisi. Un des premiers qui a été choisi, qui a trouvé le plus de membres. Donc, Sylvain sera peut-être avec nous, soit ce soir ou demain. Alors, on fera l'entrevue, on va l'enregistrer. S'il appelle, tout dépend de son horaire. Donc, Sylvain Gaudreau, député de Chicoutimi. Alors, vous êtes à l'antenne de radiofiatlux.ca et on vous réserve beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises tout au long de la journée pour cette fête nationale des Québécois qui a été érigée en 1834 par Ludger Duvernay. Ça a été lui le premier, 4 ans avant la rébellion des Patriotes de 1837. Vous êtes à l'antenne de radiofiatlux.ca dans l'émission GFP en